sur RFI.
Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le puzzle Cannes 2019 prend forme. On commence à y voir un peu plus clair. 13 équipes sur 24 ont leur billet pour le Cameroun. À l'issue de la cinquième journée des éliminatoires, la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Algérie et un petit nouveau, la Mauritanie, seront de la fête. Retour en longueur et en couleur sur les matchs du jour avec Hugo Moissonnier. Le foot, c'est aussi la Ligue des Nations en Europe. Des matchs à rebondissement aujourd'hui. Vous l'entendrez, nous serons aussi en Italie pour un focus sur la Squadra Azzurra, une sélection en guérison. Du tennis au programme pour parler du Masters de Londres, le tournoi des maîtres remporté par un élève jeune mais brillant, l'allemand Alexander Zverev. Enfin, en fin d'émission, un invité de marque, un maître, lui aussi dans sa discipline, la voile, Francis Joyon, tout frais, vainqueur de la Route du Rhum. Mondial Sport, c'est parti.
C'est extraordinaire. Je ne peux pas même m'exprimer, mais ce que je vis, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. La Mauritanie est entrée dans l'histoire du football. Vraiment, j'ai toujours rêvé et là j'ai vu mon rêve qui se réalise. Et je ne peux même pas Je ne peux pas parler.
C'est vraiment historique. La fête ne finira pas jusqu'à certainement demain. Ah, il était temps. Et c'est dit en grande partie au renouvellement de ces instances, à la jeunesse. Et l'argent, évidemment. L'argent, évidemment. Tout ça conjugué fait que réellement, les résultats sont là. À chaque fois qu'on essaie d'investir dans une œuvre.
Ça dit qu'il faut que l'argent du contribuable
soit utilisé pour réellement le rendre heureux. Toutes les équipes ont subi des défaites, des grosses défaites. Il ne faut pas avoir peur d'affronter les meilleurs. C'est au contraire, ça nous sert de leçon. Ça nous sert de se mesurer aux meilleurs pour essayer d'avancer.
Et je pense aussi qu'on est dans une bonne dynamique. L'équipe mauritanienne continue toujours à faire des merveilles, à faire rêver le peuple mauritanien. Vive la Mauritanie! Vive la Mauritanie!
La joie communicative des Mauritaniens pour débuter en fanfare ce Mondial Sport. Bonsoir Hugo Moissonnier.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On l'aura compris, les Mourabitounes ont validé leur billet pour la prochaine Cannes. C'est une première historique.
Et on l'aura compris à Nouakchott et dans toute la Mauritanie. On se souviendra longtemps de ce dimanche 18 novembre 2018, ce jour où les Mourabitounes ont battu le Botswana et se sont qualifiés pour leur première Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient déjà participé à Dochan 2014, mais également 2018 sous les ordres de Corentin Martins, déjà le technicien français qui, comme les supporters mauritaniens, est passé par beaucoup d'émotions. Ce soir, ces joueurs devaient gagner pour se qualifier. Or, ils ont trouvé le moyen d'être rapidement menés au score, et ce par une équipe, le Botswana donc, qui n'avait inscrit aucun but jusqu'ici dans ses éliminatoires. Mais le héros du jour, Ismaël Diakité, a égalisé à la 20e avant de libérer tout un peuple à quelques minutes de la fin. Tout un peuple et un sélectionneur, Corentin Martins.
Pierre, il y a plein d'émotions parce que c'est dur, tous les matchs sont difficiles et le public nous a soutenus et il fallait parce que ça n'a pas été simple. Il y avait beaucoup d'attentes sur ce match, ce qui n'était pas facile à préparer pour les joueurs parce que c'est beaucoup d'émotions, on a envie de faire beaucoup de choses, mais malgré le scénario qui n'était pas facile et avec ce premier but marqué par le Botswana en début de match, mais on a gardé notre calme et on a continué de jouer, ça c'est génial.
Corentin Martins avec Abdou Salam Diagana.
La Mauritanie qui a encore un match à disputer dans ses éliminatoires, ce sera au mois de mars face à un Burkina Faso bien mal en point, Hugo.
Les étalons pouvaient s'assurer une place à la CAN aussi en battant l'Angola à Luanda ce dimanche. Le problème, c'est qu'ils ont été battus à Luanda par l'Angola. Score final 2-1 pour les Antilopes Noires qui peuvent remercier leur capitaine, le vétéran Mateus, à la réception de deux centres. L'un en fin de première période, le deuxième peu avant l'heure de jeu. Issoufou Dayo a réduit l'écart, mais voilà, les Burkinabés en difficulté. On les présentait comme les favoris de leur groupe. Ils devront battre les Mourabitounes en mars, tout en espérant dans le même temps un mauvais résultat de l'Angola face au Botswana. Ils devront clairement, ces Burkinabés, hausser leur niveau de jeu. À en croire leur entraîneur, leur performance en Angola ce dimanche n'a pas été convaincante, pas du tout.
On ne peut pas cacher cette graine de faiblesse. Il faut le dire, on n'a pas joué, on n'a pas de grandes idées, surtout au premier mi-temps. On n'a pas de grandes idées, mais on n'a pas gagné de duel individuel. Pas de grandes idées. Il faut le dire, je suis d'accord avec vous. Et ça nous a créé encore des difficultés et ça a motivé l'adversaire.
Le Portugais Paulo Duarte, réaction sans concession recueillie par Georges Ntsimba.
Retour au qualifié du jour, on reste en Afrique de l'Ouest. Ça passe pour la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et
les deux pays qui se sont quittés bons amis tout à l'heure. Deux équipes qui se sont séparées sur un match nul un partout. Or, un nul suffisait justement aux éléphants de Côte d'Ivoire pour valider leur billet. Ce que les Guinéens avaient déjà fait avant le coup d'envoi de la rencontre. Les joueurs du Sili étaient en effet tranquilles depuis le nul entre le Rwanda et la Centrafrique. De partout, c'était un peu plus tôt ce dimanche. Deux qualifiés. Dans ce match, à l'issue de ce match à Conakry, ouverture du score, je vous raconte quand même ce qui s'est passé. Ouverture du score de Mohamed Yattara à la 11e. Égalisation Jean-Michel Seri, qu'on connaît bien RFI, environ 10 minutes plus tard. Deux réactions donc pour deux qualifiés. D'abord le Guinéen François Camano. Il nous explique que même malgré la qualification en poche, les joueurs du Sili ont voulu livrer un grand match.
Mais c'était un bon match à jouer, il fallait prendre plaisir, on l'a fait, on a donné à fond, on a joué jusqu'au bout, on a arraché ce petit point, mais voilà, et c'était normal de ne pas perdre à domicile, surtout devant nos supporters. En première, on était un peu énervé parce qu'on voulait rentrer vraiment dedans, physiquement, on était vraiment sur eux. Après, en deuxième, on a essayé de jouer le football qu'on sait faire, on a essayé de provoquer, et puis malgré on n'a pas marqué en deuxième, mais on a été vraiment mieux que la première mi-temps.
Voilà, François Camano qui a tenté d'analyser calmement ce match, pas simple,
pas facile.
Beaucoup de joie forcément dans le vestiaire. Réaction côté ivoirien, cette fois Serge Aurier, passeur décisif tout à l'heure et qui, de la mémoire, il se souvient, le défenseur de Tottenham, que cette campagne éliminatoire, elle avait mal débuté pour les éléphants avec une défaite à domicile face à la Guinée, justement Serge Aurier.
On est content, comme j'ai dit, on revient de loin. C'est vrai qu'on a eu du mal à mettre ce groupe en place. On l'avait déjà, mais bon, c'est une équipe jeune qui a besoin de s'affirmer. Et petit à petit, on est en train de prendre des points. Par exemple, là, voilà, au début, personne ne croyait qu'on aurait pu faire des matchs comme en Centrafrique, des matchs difficiles où on a pris un point ici aussi. Même si je pense qu'on aurait pu espérer mieux au vu des occasions qu'on a eues. Mais on est content de petit à petit redorer le blason de la Côte d'Ivoire et puis on est en train de guérir petit à petit, donc c'est bien.
Serge Aurier et François Camano, tous deux au micro de Thiers Noya Diallo.
Enfin, l'Algérie a également assuré sa place à la CAN ce dimanche.
Et avec une certaine manière, un certain panache, le succès 4-1 des coéquipiers de Riyad Mahrez au Togo, le joueur de Manchester City, auteur d'un doublé en première période. Un premier acte cauchemardesque pour les Togolais, mené 3-0 au moment de retrouver les vestiaires à la pause. Pour autant, n'allez pas parler de match facile au coach algérien Jamel Belmadi.
J'ai l'impression qu'il a été facile. Il a surtout été, j'imagine, assez bien préparé. On n'était pas réellement surpris par les points forts, les points faibles aussi de cette équipe. Moi, je ne dirais pas qu'il a été facile. Je dis que voilà, on a bien travaillé, on a fait en sorte que de leur laisser le moindre possibilité possible. On sait qu'ils ont des joueurs de qualité, on sait qu'ils ont des joueurs qui peuvent faire mal. Toute l'équipe a vraiment respecté les consignes. En deuxième mi-temps, comme je le dis, c'est très difficile de jouer dans ce genre de situation, 3-0, garder la motivation et la concentration pour finir le match. On a pu voir qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été aussi prolifique qu'en première mi-temps, mais sans pour autant être réellement en danger. Il y a eu des ballons directs, des deuxièmes ballons qui auraient pu peut-être faire mouche, ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Mais sinon, à part ça, on a été très 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 attentifs. Et puis le score aurait pu être largement plus lourd avec les situations qu'on a pu avoir en deuxième mi-temps.
Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie. Les Togolais, quant à eux, devront s'imposer au Bénin au mois de mars pour tenter d'aller à la CAN. Ils compteront probablement sur l'expérience de leur sélectionneur, un certain Claude Leroy, qui connaît mieux que personne la route qui mène en Coupe d'Afrique. Claude Leroy, il y croit.
On a été battu lourdement 4-1. On ne va pas trouver d'excuses. On a perdu après une première demi-heure catastrophique techniquement. Sur nos choix de jeu, c'est-à-dire que tout, à longueur d'entraînement depuis 2 ans, on répète, on se refuse à faire des touches dans l'axe qu'on trouve ou derrière, ou une touche dans le couloir. On ne sait pas pourquoi, Steve avait décidé de mettre un ballon axé. Et c'est un peu le symbole de notre première demi-heure catastrophique. Je ne hurlerai pas avec les loups pour essayer de me défausser de quelque responsabilité que ce soit, en critiquant les joueurs. Je sais que cette équipe elle peut encore se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Dans ce cas-là, tout le monde sera content. Il nous reste un match au Bénin. Je suis persuadé que peut-être à ce moment-là, la pression elle sera sur les Béninois, beaucoup plus que sur nous, à domicile, qu'on aura récupéré notre effectif. Et moi, je donne rendez-vous après le sixième match. Je pense qu'aujourd'hui, on était trop handicapé face à une équipe d'Algérie, je le répète, qui a eu pour moi 100% de réussite. 100%.
Voilà, Claude Leroy interrogé, tout comme Jamel Belmadi, par Coblent et Clou. On résume, Thomas, Mauritanie, Guinée, Côte d'Ivoire et Algérie. Ça, ce sont les qualifiés du jour. Ils sont au nombre de 4. Ça fait 13 en tout, en comptant le Cameroun, qui pour l'instant est toujours le pays hôte de la compétition.
D'autres équipes, elles, ont raté l'opportunité de valider leur billet dès aujourd'hui, à l'image, par exemple, Hugo, de la République démocratique du Congo.
Oui, la RDC devait s'adjuger le très attendu derby congolais à Brazzaville. Au final, un partout, et ce nul n'arrange pas grand monde. On voit ça avec Loïcia Martial. Bonsoir, Loïcia.
Oui, bonsoir et bienvenue à Brazzaville.
Vous êtes le correspondant de RFI à Brazzaville, vous nous accueillez, c'est gentil. Un duel donc entre les deux Congos, j'en parlais, c'est toujours un match spécial, je ne parle pas que de l'aspect sportif ou symbolique. On peut le dire, l'après-midi a été assez mouvementé chez vous, Loïcien.
Oui, il faut dire qu'on a eu droit aujourd'hui à un derby pas comme les autres. D'abord, le stade Alphonse Massamba Déba a affiché complet dès midi. Tenez-vous bien, donc 3h30 avant le match, qui a commencé à 15h30 heure locale. Une ambiance électrique a été observée à l'entrée du stade, notamment du côté de la tribune officielle, où la police a longtemps tiré des bombes lacrymogènes pour disperser des fans qui ont bloqué le passage aux délégations officielles et même aux bus transportant les joueurs. Bien qu'ils avaient leur billet d'entrée en main, ces spectateurs n'ont pas eu accès parce qu'il n'y avait plus de place dans une arène qui compte officiellement 25 000 places. Mais aujourd'hui, je vous assure, ce chiffre a été largement dépassé. Juste avant le coup d'envoi du match, les tirs de bombes lacrymogènes ont redoublé d'intensité parce que les fans ont répondu par des jets de pierre. Finalement, c'est une pluie qui est tombée sans discontinuer pendant une heure qui a aidé la police à tenir à l'écart ses spectateurs surchauffés et révoltés.
La pluie, Loïcia, qui a également fortement perturbé la rencontre. On peut parler d'un déluge sur le stade de Brazzaville.
Effectivement, un déluge, une pluie, comme je le disais tout à l'heure, qui est tombée pendant plus d'une heure, donc qui a laissé beaucoup de gorgées sur la pelouse synthétique. À un moment, donc, les ramasseurs de balles se sont transformés, ont eu droit à une autre opération parce qu'ils ont utilisé des seaux pour dégager ces gorgées d'eau. Et qui ont été absorbés beaucoup plus par cette pelouse synthétique. Donc, le match, après la mi-temps, le match a repris avec pratiquement une heure de retard. Le trio arbitral camerounais, après avoir constaté que le terrain était devenu praticable, a relancé le match, qui s'est terminé par le score, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 1-0.
Un but partout, ouverture du score. Kasongo pour la RDC, Bifouma a égalisé pour les Diables Rouges du Congo. Brazzaville, merci Loïcia Martial au classement. Les deux Congos, je disais que ça n'arrangeait personne, se font passer devant par le Libéria. Le Libéria qui a battu le Zimbabwe, c'est une petite surprise, sachant que le Zimbabwe pouvait se qualifier dès ce dimanche, Thomas.
Rapidement, d'autres résultats de ce dimanche, Hugo.
Et le succès du Ghana en Éthiopie grâce à un doublé de Jordan Ayew, de retour en sélection comme son frère André. Les Black Stars dépassent leur adversaire du jour et prennent la deuxième place d'une poule étrange, puisque la Sierra Leone, actuellement suspendue par la FIFA, en fait toujours partie. Mais les trois derniers matchs de la Sierra Leone ont été annulés. La CAF n'a pas encore décidé quelles seraient les conséquences de ces annulations sur le classement définitif du groupe. Dans la poule K, le Mozambique a battu et éliminé la Zambie. Succès 1-0. Les Mozambicains encore en course pour la qualification, tout comme la Guinée-Bissau et la Namibie. Toujours en course également le Lesotho, qui a dominé la Tanzanie dans le groupe L. Celui de l'Ouganda, le Lesotho, devra s'imposer au Cap-Vert en mars pour accompagner les Cranes à la CAN.
La CAN féminine, Hugo, une grosse surprise aujourd'hui.
La défaite du Nigeria, l'équipe qui remporte pas toutes les Coupes d'Afrique féminines, mais presque. Défaite donc à Cape Coast, au Ghana. Défaite face à l'Afrique du Sud, 1-0. L'autre équipe à avoir inscrit son palmarès de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines, c'est la Guinée équatoriale, qui a également été battue aujourd'hui. Défaite très lourde, 5-0 face à la Zambie.
Les cartes sont rebattues, on dirait, chez les filles. Et de 3 qualifiés pour la finale à 4 de la Ligue des Nations, cette nouvelle compétition européenne entre sélections. L'Angleterre et la Suisse ont rejoint le Portugal. La Suisse qualifiée il y a quelques minutes en dominant de manière assez surprenante la Belgique. 5-2, match très spectaculaire. L'Angleterre, elle, s'est qualifiée également tout à l'heure en renversant la Croatie à Wembley. 2-1, score final. Je dis renversé parce que les hommes au Dami avaient ouvert le score par Kramaric. Lingard puis Kane ont permis aux Anglais de gagner ce match et de terminer in extremis à la première place du groupe devant l'Espagne. On écoute un homme heureux, Harry Kane, le héros du jour.
C'était une super sensation de marquer le but vainqueur et de remporter cette rencontre si importante pour nous. C'était complètement fou, c'était dur depuis la pelouse, on a joué contre des grands joueurs, mais je pense qu'à la mi-temps on aurait pu mener 1 ou 2-0. Mais ils sont restés dans la rencontre et ils ont même ouvert le score, on s'est arraché pour revenir dans le match et le faire basculer en notre faveur. Et je crois qu'on peut vraiment en être fiers.
Harry Kane, le buteur anglais avec nos confrères de l'équipe, je vous disais, 3 qualifiés pour la finale à 4 de cette Ligue des Nations. Le quatrième, ce sera la France ou les Pays-Bas. L'équation est simple, si les Néerlandais font match nul ou battent l'Allemagne lundi, ils auront leur ticket en poche. Pas de ticket en revanche pour l'Italie, ça c'est sûr, les Italiens termineront deuxième de leur poule, mais ils vont mieux, les quadruples champions du monde, ils viennent d'enchaîner 3 matchs sans défaite, le dernier hier contre le Portugal, match nul 0-0 à Milan, pas de quoi sauter au plafond, mais la crise semble passer dans la maison Squadra Azzurra. Pour en parler avec nous, un Milanais, ça tombe bien, notre correspondant Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir Thomas.
Parlons d'abord de ce match, Italie-Portugal, 0-0 score final. Les Italiens, encore une fois, ont montré de bonnes choses, au moins pendant la première heure de jeu. Mais ce matin, la presse chez vous insiste encore sur les lacunes de cette équipe. Quelles sont-elles précisément ?
Bah, Thomas, une surtout de l'Italie de Roberto Mancini est dépourvue d'un avant-centre réel, concret et buteur, car ni Immobile, ni Belotti, ni Balotelli ont assuré jusque-là ce rôle. Seulement 7 buts en 8 matchs, c'est un bilan assez pauvre. Pour cette raison, donc, nombreux journaux ce matin ont lancé un message à l'entraîneur. Au lieu de miser sur un avant-centre pur, pourquoi ne pas penser en attaque à des joueurs plus techniques et polyvalents, affirme la presse. Un peu à la manière de Carlo Ancelotti et son Naples, où un vrai neuf, si on exclut le polonais Milik, n'existe pas.
Alors quand même, cette squadra, elle est sur la voie de la guérison, bien soutenue, il faut le dire, par les tifosi un an après la catastrophe, la non-qualification pour la Coupe du Monde. Les supporters ont, semble-t-il, pardonné les joueurs. Hier, le stade San Siro affiché complet, ambiance magnifique. Comment s'explique, Matteo, ce regain de popularité de l'équipe nationale ?
Bah écoutez Thomas, encore aujourd'hui, cette non-qualification d'il y a un an est un morceau trop dur à digérer pour les Italiens qui n'oublieront jamais ce choc, mais espèrent ne jamais revivre un tel cauchemar. Pour réveiller les esprits, on a donc appelé Roberto Mancini, aperçu comme l'homme qui a la tâche d'effacer le passé et relancer l'équipe. De lui, l'opinion publique aime sa façon de traiter, par exemple, les jeunes, considérés importants au même niveau des anciens du groupe. Mais en plus, le technicien est apprécié aussi pour le fait de recruter des joueurs aussi chez les clubs moins célèbres de la Serie A et même de la Serie B. Et encore, Mancini a le soutien de tout un club, parce qu'il est sincère, il ne fait pas de fausses promesses, mais a rappelé à tous qu'il faut être patient avant de revoir la squadra au plus haut niveau.
Un bémol quand même, Matteo, concernant l'ambiance, les sifflets nourris à l'encontre du défenseur de la Juventus, Leonardo Bonucci, qui a donc fait ce pilier historique de la sélection pour recevoir hier un tel traitement de faveur.
Oui Thomas, faut dire qu'on jouait à Milan et les Milaniens n'oublient pas, et surtout les supporters de l'AC Milan présents hier à San Siro n'ont pas encore pardonné aux défenseurs d'avoir quitté le navire rossonero après seulement une saison. Un choix qui a donc été souligné par les sifflets qui ont beaucoup blessé Leonardo Bonucci, qui à la fin du match, visiblement fâché, a déclaré « La madre degli idioti est sempre incinta », c'est-à-dire « La mère des idiots est toujours enceinte ».
C'est toujours très poétique chez vous, Matteo. Un dernier mot sur cette squadra nouvelle génération. Quand on se penche sur l'âge des joueurs, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, on remarque que certains d'entre eux sont très jeunes, pas encore très connus, hors des frontières de la botte. Faites-nous, s'il vous plaît, les présentations, Matteo.
Oui, il faut dire tout d'abord que Mancini, en ce match, a convoqué 51 joueurs, dont 11 débutants, parmi eux pas mal de jeunes, on vient de le dire. Tout d'abord l'attaquant de la Fiorentina, Federico Chiesa, ou le milieu de terrain de Cagliari, Nicolò Barella, 21 ans, est déjà très recherché par les grands clubs, pas seulement en Italie. Et puis encore Patrick Cutrone, est 20 ans, au centre de l'AC Milan, qu'on commence déjà à connaître, comme son coéquipier, le gardien Gigi Donnarumma, 19 ans. Mardi, l'Italie affrontera les États-Unis. Et là, on aura la possibilité de découvrir des autres promesses, et comme Moise Kean, 18 ans, italien d'origine ivoirienne, qui actuellement ne trouve pas de place de la Juve et qui pourrait en janvier quitter donc le club turinois. Je peux compter aussi sur Sandro Tonali, lui aussi 18 ans, il joue à Brescia, c'est en série B. De lui, on dit des merveilles. On a même comparé ad Andrea Pirlo. Andrea Pirlo qui, à son tour, a commencé sa carrière en jouant à Brescia.
Merci. Bonne soirée, Matteo Cioffi. Bonne soirée également à Hugo Moissoni qui quitte ce studio. Dernier mot de football pour vous signaler ce choc en football féminin, précisément. La D1, Paris Saint-Germain-Lyon, le deuxième contre le premier. On joue les dernières minutes du match pour l'instant. Un but partout. Djokovic ou Federer au jeu des pronostics, le Serbe et le Suisse partaient favoris avant le début du tournoi des maîtres du tennis, le Masters. Mais finalement, un jeune Allemand a mis tout le monde d'accord à Londres. Il a 21 ans, 1m98, coiffé d'une tignasse blonde. Il s'appelle Alexander Zverev. Il s'est offert en deux jours deux scalps de choix. Federer donc battu hier en demi-finale et Novak Djokovic vaincu en finale tout à l'heure. 6-4, 6-3, surprise ou pas, Martin Guez s'est posé la question. Alors, il a décroché son téléphone pour demander l'avis d'un spécialiste, Lionel Roux, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis.
On l'attendait peut-être pas si tôt dans un grand rendez-vous du Masters, surtout, autant en grand chelem peut-être un petit peu, mais dans ce Masters où il avait paru un peu fatigué, il l'avait d'ailleurs déclaré, et surtout c'est la façon dont il a évolué tout au long de ce Masters, et puis surtout quand on voyait un petit peu les quatre têtes dans les demi-finales avec lui 21 ans et puis les autres qui avaient plus de 10 ans de plus, donc un peu moins d'expérience pour lui, et la jeunesse a défié les anciens, et on a aligné Federer comme ça en demi-finale et puis Djokovic, c'est assez impressionnant. Moi, il m'a épaté par cette faculté à gérer l'événement par rapport à son premier match jusqu'à cette finale.
Au-delà de ce Masters, Alexander Zverev, il symbolise enfin cette nouvelle génération qui peinait un petit peu à remplacer les habitués du circuit.
Mais en même temps, ils vendent leur peau très très cher, les anciens, parce que on avait rarement vu ça, de voir un Roger Federer revenir comme ça à 36 ans, un Rafael Nadal être toujours au top à 33 ou 34, un Djoko revenir à 32 ans. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a les anciens qui font de la résistance et qui sont surtout toujours à un niveau quand même assez exceptionnel. Et puis lui, qui du haut de ses 21 ans, arrive à les titiller, mais pas les bousculer assez fort, et il y est arrivé cette semaine. Il faut quand même rappeler que les joueurs qui ont battu Djoko là, sur ces 6 derniers mois, ils font partie de cette nouvelle génération, c'est Khachanov, c'est Tsitsipas et donc Zverev. Alors peut-être que certains diront que Djoko était fatigué. Oui, il est fatigué, mais il l'est aussi parce qu'en face, il y a un joueur qui a tenu le bras de fer et qui lui a tenu la dragée haute.
Et côté français, la grosse performance, elle est venue du double de la paire Nicolas Mahut-Pierre Hugerber, qui allait jusqu'en finale du tournoi, même s'ils sont inclinés face aux Américains Brayan et Sock. Mais ça reste quand même leur meilleure performance dans ce tournoi. Est-ce que pour vous, c'est de bon augure à une semaine de la finale de la Coupe Davis contre la Croatie ?
Bien évidemment, c'est toujours de bon augure de pouvoir comme ça jouer des matchs de très haut niveau sur un grand central dans une grosse ambiance. Surtout qu'ils ont été obligés de se remettre en question, ils avaient perdu le premier match, donc c'était important pour eux de montrer voilà qu'ils faisaient partie des meilleures équipes au monde et de le montrer dans ce Masters des champions. Ça fait 4 ans qu'ils sont qualifiés, à chaque fois ils avaient perdu dans les poules. C'est une équipe qui tourne bien tout au long de l'année, donc c'est vraiment mérité, je trouve, qu'ils arrivent à aller en finale. Et par rapport à la Coupe Davis, oui, bien évidemment, même s'ils auront peut-être un petit peu moins d'heures sur terre battue, ils ont gagné la confiance en gagnant des matchs, et ça n'a pas de prix quand on a un grand rendez-vous à jouer le week-end prochain.
Lionel Roux, ancien capitaine, ancien entraîneur plutôt de l'équipe de France de Coupe Davis, avec Martin Guez. On va parler voile à présent avec un invité de choix, Francis Joyon, le skipper d'Idexport, vainqueur lundi de la célèbre Route du Rhum, la transatlantique la plus prestigieuse, un nouveau record, 7 jours 14h 21 minutes pour relier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Bonsoir Francis Joyon, ou plutôt bonjour, vous êtes toujours en Guadeloupe et c'est encore l'après-midi chez vous, c'est ça ?
Oui, bonjour.
Première question que j'ai envie de vous poser, Francis Joyon, une semaine maintenant pratiquement est passée depuis votre arrivée en vainqueur à Pointe-à-Pitre. Êtes-vous aujourd'hui revenu sur terre dans tous les sens du terme ?
Forcément, il faut un petit peu de temps pour récupérer au niveau sommeil, etc. Et je pense, oui, être rentré sur terre quand même.
L'image forte pour beaucoup de cette 11e Route du Rhum, c'est cette arrivée incroyable, ce mano à mano, bord à bord presque, avec François Gabart. On aurait dit une régate. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur, ce moment précis ?
Ah ben, ça a été réellement une régate, hein, puisqu'on s'est retrouvé à vue pratiquement toute la dernière heure. Je voyais François qui était entouré d'un nuage de bateaux avec les lumières dans la nuit. Moi, j'avais une trajectoire légèrement plus près du vent. Et après, j'ai vu François, au contraire, qui, avec toute cette meute de bateaux qui revenait avec beaucoup plus de vitesse que moi. Et pareil, je l'ai vu très près, à quelques mètres sous le vent de mon bateau dans la nuit. Donc, c'était une véritable régate au contact, oui.
C'était stressant, ce moment ?
C'était assez passionnant. Il y avait bien sûr le côté stressant, mais ça, c'est plutôt négatif, le stress. Je pense que le côté le plus positif était le côté passionnant de vivre une arrivée comme ça. Moi, j'avais conscience que c'était un grand moment de voile. Et c'est vrai que j'étais complètement à bloc à essayer de me concentrer le plus possible pour donner le meilleur, surtout pas louper les deux virements que j'ai faits et surtout rester du bon côté entre la ligne et François, bien sûr.
On rappelle à nos auditeurs que vous avez fondu sur François Gabart dans les derniers milles de cette course. Vous étiez à un moment assez largement distancé. Est-ce que sincèrement, à la mi-course, on va dire, vous vous attendiez à un tel dénouement ?
Le maximum d'écart qu'on a eu de mémoire devait être de l'ordre de 130 000. Et 130 000 avec des bateaux comme ça, c'est jamais quelques heures de course. Hein. Quand on a 300 000 de retard, on commence à se dire, bon bah là c'est mort. Quand on a 130 000 de retard, on sait qu'on a toujours une possibilité de revenir en fait.
En plus, la voile nous offre des coups de théâtre, parfois, justement, très récemment, l'arrivée de la catégorie IMOCA nous en a offert un avec l'accident tout près de l'arrivée d'Alex Thompson, qui était très largement en tête. Il a heurté une falaise sans doute après s'être endormi. Est-ce que ce genre d'événement, de coups de théâtre, ça résume bien la difficulté aussi de votre sport ?
Ben, c'est vrai qu'on a énormément de choses à gérer. On est seul sur un bateau depuis des jours au milieu des océans. Il faut gérer, et chaque jour qui passe, la fatigue s'accentue. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Alex, hein, qui a dû vraiment aller au bout de lui-même et s'endormir juste avant d'arriver sur la falaise.
Alors, il y a des défaillances humaines, il y a aussi des défaillances techniques. En voile, on a beaucoup parlé des nouveaux bateaux volants, entre guillemets. Ils étaient trois au départ. Les trois ont connu de la casse. Abandon pour Joss, pour Le Cléache, avarie sérieuse pour Gabart. Votre bateau est plus ancien. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire aussi de la fiabilité ?
C'est vrai que j'avais travaillé la fiabilité, bien sûr. Mais ça n'empêche pas le bateau d'aller vite. Hein. Comme je vous disais, c'est un bateau avec lequel on tenait des moyennes de 40 nœuds quand on était autour du monde en équipage. Là, en solitaire, j'étais peut-être quelquefois approché des vitesses. C'est vrai que c'était des vitesses qui sont comparables à celles des bateaux volants. Donc, j'avais pas trop de handicap moral au départ par rapport à ces nouvelles machines, du fait que je connaissais bien le potentiel de mon bateau. Effectivement, il a 12 ans, mais il a été bien conçu, il a été bien amélioré au fil du temps. Et c'est toujours un super bateau.
Francis, vous venez de remporter sans doute votre plus belle victoire. Quel est maintenant le prochain défi qui vous attend ?
Alors, on est un petit peu en train de se poser la question avec IDEX, savoir où s'acheminer. Je pense qu'on va retourner vers le monde des records, mais pour le moment, rien n'est décidé encore.
Merci François.